Voilà, c'est bon. Bien, mesdames, messieurs, merci d'être venus nombreux. Alors, je pose la question rituelle habituelle. Je vais baisser un petit peu, là. Qui n'est pas inscrit à l'UTB dans la salle? Voilà. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Puisque je rappelle que l'objectif de cette séance est d'inciter des nouveaux adhérents à venir nous rejoindre. Mais on accueille bien volontiers les adhérents de cette année, bien évidemment. Hein? Oh, pardon. Alors, vous connaissez mon amour immodéré pour la technique et la complexité. Quelquefois, on se prend un peu les pieds dans les fils et les tapis, mais on va essayer de faire tout ça très bien. Alors, je rappelle la raison pour laquelle on fait ce type de séance depuis 7 ou 8 ans, c'est que avant, j'étais adhérent de base de l'UTB, et on adhérait à l'UTB sans savoir quel allait être le programme. Alors, je sais qu'on fait une confiance absolue aux dirigeants de l'UTB pour faire des programmes extraordinaires, mais enfin, la confiance, ça se mérite. Et donc, il m'a paru nécessaire de déjà proposer le programme et ensuite de proposer les inscriptions, si vous voulez. Même si je sais que la plupart d'entre vous nous font confiance. Et si ça leur plaît pas, eh bien, ils ne s'inscrivent pas. Mais pour avoir ce type de dialogue ou de réflexion, eh bien, encore faut-il connaître le programme. Alors là, je vous montre, je me suis fait prendre en photo par le JSL, merci le JSL, avec le brouillon ou l'épreuve, la première épreuve du programme de l'année prochaine qui sera orange, comme vous le voyez. Hein, et donc, vous savez qu'on change de couleur tous les ans. Voilà. Bien, on y va. Donc, aujourd'hui, je me concentre essentiellement sur les programmes de conférences. À la fin de l'exposé, je ferai un balayage extrêmement rapide sur les ateliers qui feront l'objet d'une présentation au mois de septembre avec tous les responsables des ateliers qui viendront expliquer ce qu'ils proposent. Voilà, alors je vous fais grâce des préliminaires. Ah, voilà les grands thèmes de l'année qui vient. Comme toujours, c'est une ancienne absolument incontournable, l'histoire de l'art est le socle de notre programmation. Et vous le verrez, on a, je pense, 26 conférences cette année dans des domaines très divers. Et parmi l'histoire de l'art, la vedette, c'est incontestablement les impressionnistes. Là, il y a un réservoir de sujets absolument insondables. Et Claudie Roger continuera son cycle sur les impressionnistes. Alors, comme l'an dernier où on a beaucoup parlé de Napoléon III, donc on va continuer sur des grandes thématiques d'événements qui se sont passés en France au XIXe siècle. J'y reviendrai dans le détail tout à l'heure. Et la nouveauté, la grande nouveauté cette année, c'est on va parler de la découverte de l'Égypte au sens de tout ce qui a tourné autour de l'expédition d'Égypte de Bonaparte. Je rappelle qu'ici, on est quand même dans la ville de Vivant-Denon, hein, et de Chabas. Donc, on a un tropisme égyptien qui est très fort. Et on s'occupe, vous savez que l'UTB s'occupe du Comité national Vivant-Denon, c'est-à-dire qu'on organise des colloques universitaires sur cet homme, natif de Châlons. Mais on en avait fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à une certaine époque, on a considéré qu'il fallait un petit peu être sevré de l'Égypte pour parler d'autres sujets. Alors maintenant, la cure de sevrage est terminée et on recommence un petit peu d'Égypte. J'y reviendrai dans le détail, bien sûr. Les avancées récentes de la médecine, puisque vous avez vu que ces deux dernières années, on a réussi à faire venir des docteurs ou des professeurs qui sont dans la région ou dans la région lyonnaise et qui nous ont fait d'excellentes conférences et qui ont eu beaucoup de succès sur les évolutions récentes de la médecine. Et puis, je cède à la mode actuelle, mais qui correspond à quelque chose les transformations rapides du monde contemporain. Alors ça évoque quoi? C'est essentiellement les nouvelles technologies, c'est-à-dire tous les gadgets dont on est truffé dans les poches et partout, et d'ailleurs je vais continuer avec ça, quelles sont les problématiques qui sont derrière tout ça. Je fais d'ailleurs une petite allusion à cette... Il y a un des ateliers qui s'appelle Éthique et Société qui traitera de ce sujet-là également. Hein? Voilà. Voilà les grands thèmes transversaux. Ah, c'est parti. Donc, histoire de l'art. Alors, Annick Spee, conférencière, c'est plus que fidèle. Non, ça va là, vous voyez bien où on éteint. Oh, c'est bon. Ah, vous voulez éteindre? Bon, ben, éteignons. Ah. Oui, on voit mieux les images. Donc, Annick Spee, vous savez qu'elle a également un tropisme architectural, et donc on a fait l'architecture japonaise l'an dernier, et cette année on va faire l'architecture brésilienne, et évidemment on parlera entre autres d'Oscar Niemeyer, qui est un célébrissime architecte, celui qui a conçu Brasilia. Hein, vous voyez deux images de Brasilia en illustration. Voilà. Deuxièmement, eh bien, voilà la brochette des impressionnistes. Alors, Renoir, évidemment, on va faire deux séances parce que ça mérite. Frédéric Basile, Marie Cassatt, un peu méconnue. Hein, Marie Cassatt, c'est l'américaine impressionniste. Eugène Boudin et Armand Guillaumin, qui est aussi un peu méconnu. Voilà. Donc, six séances sur les impressionnistes. Alors, Damien Capellazzi nous parle cette année puisqu'il va proposer un voyage à Vienne, donc du musée des Beaux-Arts, hein, qui s'appelle le Kunsthistorisches Museum de Vienne. Hein, donc j'ai pris une des vedettes Maximilien d'Autriche, peint par Albrecht Dürer, hein, et Klimt, bien sûr, célébrissime peintre tchèque, qui fera l'objet d'une conférence spécifique. Alors, maintenant, donc Mathieu Pinette, depuis l'année dernière, nous a proposé une nouvelle formule dans ses conférences, c'est-à-dire ce qu'il appelle histoire d'œuvre avec un S à œuvre, c'est-à-dire il prend un siècle, donc 16e, 17e, 18e, 19e, et il prend un peintre particulier qui lui paraît emblématique d'une certaine vision de l'art dans chacun de ces siècles. Et évidemment, au milieu de tout ça, eh bien, il a pris Hubert Robert avec l'Égyptomanie naissante où les pyramides garnissaient absolument tous les tableaux. Et on verra, l'Égyptomanie est antérieure à l'expédition d'Égypte. On peut même dire que l'expédition d'Égypte s'est beaucoup appuyée sur l'ambiance égyptomaniaque de la fin du XVIIIe. Mais on vous expliquera tout ça dans des conférences spécifiques. Donc, on va dire la peinture exotique. Et puis, quelque chose d'intéressant, un continent neuf, regard sur l'Amérique par la peinture européenne. On avait vu, il y a quelques années, la peinture américaine, hein, du XVIIIe et du XIXe. Et là, on va inverser la problématique en partant de l'Amérique pour aller de l'Europe pour aller vers l'Amérique. Monsieur Cousin, Frédéric Cousin, va nous faire la peinture des vanités. Vous savez tous ce que sont les vanités. Donc là, la célébrissime peinture du musée à Londres, du British Museum. Pas du British Museum, du musée de peinture, National Gallery, voilà, à Londres. Donc, c'est les ambassadeurs, hein, et avec une anamorphose de tête de mort, c'est ce qu'on appelle l'os de sèche, là, qui est en travers, qui montre que le contraste entre la magnificence des habits sur cette terre et la destinée qui nous attend tous, c'est-à-dire la mort. Et deuxièmement, un peintre, enfin un graphiste plus exactement, hollandais, disons du XXe siècle, Cornelis Escher. Et là, vous le voyez, il s'est peint lui-même, vous le voyez dans la boule ici, il tient lui-même la boule et il a dessiné son reflet dans la boule. Voilà. C'est le portrait de Escher. Un grand courant artistique dont on n'a jamais parlé, ce qu'on appelle le street art, hein, qui est très à la mode maintenant, c'est-à-dire les tags sont devenus artistiques, et j'ai pris un exemple comme ça de dessin absolument, enfin de peinture absolument magnifique. Et là, sur Internet, en ce moment, c'est un feu d'artifice sur toutes ces... Maintenant, il y a même des festivals de street art. En architecture, on va parler de Le Corbusier, dont tout le monde connaît, mais quelqu'un qu'on connaît moins, qui est contemporain, Eileen Gray, qui était une architecte également, qui concevait du mobilier, disons, dans l'entre-deux-guerres. Elle était prophétique, puisque finalement, le design des années post-Deuxième Guerre mondiale s'est largement inspiré de ses travaux. Ça, c'est la cathédrale de Ronchamp, pour ceux qui connaissent, donc près de Montbéliard. Hein? Alors, M. Beau, qui est ici, va nous faire le deuxième épisode du vin. Et donc, on a vu la partie plutôt spirituelle, la symbolique spirituelle dans le vin, et là, on va voir la symbolique plutôt hédoniste dans le vin. Hein? J'ai choisi, alors là aussi, on a beaucoup d'iconographie. Il nous montrera tout ça. On va parler de Guignol. Guignol en tant que phénomène, tout à fait spécial et atypique. Donc, c'est la dame qui est directrice du théâtre de Guignol qui viendra nous en parler. Pompon et son lieu. Donc, Pompon, sculpteur dijonnais bien connu. Et donc, ça sera associé à une visite à Saulieu et dans la région pour voir l'architecture et également des sculptures. Joseph Cornel est l'objet surréaliste. Alors, l'objet surréaliste, pour faire court, il y aura une conférence là-dessus. Donc, Madame Fabienne Chollet, qui est docteur en histoire de l'art, qui est une jeune... enseignante à Dijon et qu'on va découvrir, et donc l'objet surréaliste, c'est essentiellement des collages, vous voyez comme ça, d'objets. C'est pas encore des installations, mais on y vient. Et voilà, alors, il y a eu une demande assez forte dans les discussions qu'on a pu avoir avec les uns ou les unes et les autres, c'est ça manque de sujets féminins dans vos conférences, des sujets spécifiquement féminins. On en a choisi un, voyez, la mode sous le directoire, le consulat et l'empire. Et donc Alain Pijard, c'est celui qui va faire la conférence le 28 sur la Légion d'honneur, l'histoire de la Légion d'honneur à la salle Marcel Samba, dans le cadre de notre programme. Et je profite de l'occasion pour rappeler que la date qui était sur le bulletin papier, qui était de 18h, c'était l'heure initiale, c'est en fait 20h. Donc on a corrigé sur le site internet. Donc si vous avez envie d'aller à cette conférence, c'est pas à 18h, c'est à 20h, à la salle Marcel Samba, hein, le 28 mai. Donc Alain Pijard, tout le monde me dit qu'il est excellent conférencier, et on le jugera sur pièce, mais on l'a invité donc l'année prochaine. Alors, une thématique artistique, la pyramide à travers les âges, la symbolique de la pyramide, par Mireille Thomas, professeur d'histoire, géographie, en retraite. Voilà, merci, qui est présente dans la salle. Alors, maintenant, l'histoire en général, et donc on fait réapparaître la ligne histoire antique qui avait disparu de nos programmes depuis de nombreuses années. On s'est posé la question, par quoi, parce que l'histoire antique, c'est un océan, évidemment, par quoi commencer? Donc on va essayer de se raccrocher à des thématiques, soit des conférenciers, soit des thématiques qui sont déjà évoquées dans d'autres parties du programme. Alors je commence, on commence par la persantique. Hein. Et donc pour ceux qui sont déjà un petit peu anciens à l'UTB, on avait eu plusieurs conférences, plusieurs années, d'un spécialiste de l'Iran qui s'appelle Yann Richard, qui habite à Jonci, hein, et qui, dont toute la famille Richard est maire de Jonci depuis 4 générations. Donc si vous dites Jonci, ça veut dire Richard. Hein. Donc lui, il n'a pas fait de politique, il a fait du perse. Et il a dit, il n'y a qu'une chose que je sache faire, c'est parler le persan. Et donc, il a vécu à Téhéran et il a donné des cours de français à des Iraniens. Hein. Donc, on a c'est un cycle sur l'histoire ancienne, enfin, sur l'histoire de la Perse. Et donc, on passe sur les dynasties antiques. Et l'année prochaine, on aura des choses sur la partie après Jésus-Christ, si vous voulez. Hein? Voilà. Et l'autre grande figure qui va aussi avec la Perse, alors on a c'est venu. Et si vous croisez la Perse et l'Égypte, hein, évidemment, dans le quiz, vous trouvez tout de suite Alexandre le Grand, hein, bien évidemment. Et donc, c'est Madame Monique Roux, bien connue dans nos conférencières qui nous traitera d'Alexandre le Grand et d'Alexandrie, bien sûr, puisque à la fin de son périple, ça se termine à Alexandrie, qu'il a fondée. Alors, voilà ce que je vous annonçais tout à l'heure. On va parler de l'expédition d'Égypte de Bonaparte. Pourquoi a-t-on eu cette expédition d'Égypte? Même encore aujourd'hui, les historiens se battent pour savoir quels sont les déclencheurs effectifs qui sont multiples, en fait, de cette expédition. Donc, vous écouterez tout ça. Et on a profité de l'occasion pour vous proposer une animation, comme on avait fait au sujet de l'encyclopédie, pour sortir la description de l'Égypte. Vous savez que sous l'autorité de Napoléon, là, il était devenu empereur, il y a toute une série de volumes impressionnantes qui a été édité de 1803 à 1830 et quelques, avec surtout des gravures qui sont absolument extraordinaires. On est allé les voir il y a quelques semaines, et donc on va se régaler. Donc il y aura 2 séances au mois de mars de l'année prochaine. L'expédition d'Égypte, alors M. Ahmed Djebbar, qui nous fait des conférences sur les mathématiques d'habitude, nous a proposé cette conférence qu'on a tout de suite acceptée en disant ben, « tout ça c'est bien joli, on n'a que la vision occidentale et française de l'Égypte à travers cette expédition d'Égypte, eh bien moi je vais vous raconter comment les Égyptiens de l'époque ont vécu cette chose-là ». Évidemment, ben, ils l'ont vécu comme ça, comme la... ce qui est représenté sur le tableau. Vous savez qu'il y a eu plusieurs révoltes des habitants, hein. Je ne parle pas des Turcs, hein, des Mamelouks, je parle des gens du peuple. Hein. Il y a eu plusieurs émeutes, et en particulier, ça s'est terminé par l'assassinat de Kléber, que Bonaparte avait laissé derrière lui à l'occasion d'une de ces révoltes. Alors, tout de suite derrière Napoléon, il y avait le chef des fameux savants. Vous savez que l'expédition d'Égypte, c'était également une expédition scientifique. Et celui qui a été le chef des savants, c'était Gaspard Monge. Alors, j'ai fait un petit test là. Gaspard Monge, on a vaguement entendu parler de ça. Il est né à Beaune, hein, mais il a fait toute sa carrière à Paris et ici ou là, entre autres en Égypte, en Italie. Et Monge, c'est un grand républicain, hein, donc anti-royaliste. Il a failli d'ailleurs passer pas loin de la guillotine au moment de la terreur. Il a échappé. Et par contre, autant Lazare Carnot s'est coupé de Napoléon, autant lui a été fasciné par l'homme Napoléon qui l'a couvert d'honneur. Et donc, M. François Perrault, on peut considérer aujourd'hui que c'est le biographe officiel de Gaspard Monge, et on a réussi à le faire venir avec le partenariat de l'ITB de Beaune, puisqu'il fera ses conférences un jour à Beaune et ensuite le lendemain chez nous, si vous voulez. Alors, Gaspard Monge était également un grand mathématicien, hein, puisque c'est l'inventeur de la géométrie descriptive, et c'était le professeur, ça a été le professeur de Lazare Carnot à l'école du génie de Mézières. Mais vous lirez ça dans le magnifique ouvrage sur Lazare Carnot que nous allons sortir à l'automne. Gaspard Monge, on peut considérer également, c'est lui le fondateur de l'école polytechnique. Et donc, quand il a fait la liste des savants, eh bien, il y a beaucoup de polytechniciens. Alors, celui-là, c'est pas un polytechnicien, mais c'est un savant aussi, c'est Champollion. Champollion, le décrypteur des hiéroglyphes. Et c'est aussi le biographe officiel de Champollion qui viendra faire la conférence, qui vient de Grenoble, pour nous raconter tout ça. Et là, vous reconnaissez la pierre de Rosette qui a été la clé du déchiffrement des hiéroglyphes. Et je vous montrerai, quand il viendra faire sa conférence, la pierre de Rosette, puisqu'on a la pierre de Rosette à l'UTB. En carton-pâte, mais c'est la... Mais à l'échelle 1, voilà. Autre grand personnage politique de cette époque, Talleyrand. Alors, je vous dis tout de suite, l'objectif de cette conférence, M. Clemenceau, ça va être de réhabiliter Talleyrand, et non pas de le critiquer comme tout le monde le fait. Donc, il exposera sa thèse. Et donc, lui, il est un de ceux qui ont été à l'origine de l'expédition d'Égypte. Il a poussé à cette expédition d'Égypte. On vous expliquera tout ça dans les conférences. La conquête de l'Algérie. Alors ça, on a demandé à Geneviève Guérin de nous faire ça, puisqu'elle a un tropisme nord-africain, hein, puisqu'elle a enseigné en Tunisie pendant une partie de sa carrière. Mais également, la conquête de l'Algérie au XIXe siècle, c'est quelque chose qui est tout à fait méconnu. On connaît les problèmes de l'Algérie après la Deuxième Guerre mondiale, donc on a souhaité faire une révision un petit peu de tout ça. Et voilà le... ce qui vous est proposé, ça c'est important pour comprendre beaucoup de choses l'histoire du XXe siècle de la France. Mais il faut se replonger dans ces périodes plus reculées. Pourquoi est-on allé en Algérie et comment ça s'est passé? Alors, des conséquences de l'expédition d'Égypte, ben, il y en a une première qui est le canal de Suez, bien connu. Hein, voilà un plan du canal de Suez qui a été donc mené par le fameux Ferdinand de Lesseps. Et la fameuse compagnie de Suez, la banque, est toujours la banque qui est venue du canal de Suez. Ça vient de Ferdinand de Lesseps. Et un avatar qui s'est passé ensuite, c'est le canal de Panama. Hein, donc je rappelle quand même, au départ, les Français ont été des grands investisseurs pour faire ces constructions. Évidemment, après, les Anglais sont passés derrière et ont ramassé la mise. Mais ça, on vous racontera ça dans les conférences. Deuxième grand événement du XIXe siècle en France, c'est la Commune de Paris, également extrêmement méconnue au niveau de son déroulement dans le détail. Hein. Ça nous a paru important qu'on ait un exposé là-dessus. Et c'est Mme Monique Roux qui nous parlera de ça. Hein, et nous parlera en particulier de Clémenceau, puisque on sait peu que Clémenceau était maire de Montmartre sous la Commune. Dans sa jeunesse, il était jeune à cette époque-là. Ensuite, 19e siècle, un homme incontournable, Karl Marx. Alors, j'ai demandé une biographie. Alors, personne ne connaît la vie de Karl Marx. On connaît plus ou moins ses œuvres ou ses idées, plutôt moins que plus. Hein. Donc, je rappelle qu'on a déjà eu des conférences sur la partie économique par Madame Ruiz il y a 2 ou 3 ou 4 ans, je ne me souviens plus. Mais il faut parler de l'homme. Et on connaît cette photo, elle est archi connue. Voilà Karl Marx quand il était jeune. C'était un beau gosse. Hein? Et il avait une très belle femme. D'ailleurs, toutes ses œuvres ne sont connues que grâce à sa femme. puisqu'il avait une écriture de cochon, et heureusement que sa femme l'a retranscrite pour qu'elle puisse être imprimée. Si on essayait de prendre ses papiers directs, c'était absolument impossible. C'était un cochon dans tous les sens du terme, au sens hygiénique du terme, j'entends. Hein. J'ai trouvé un portrait intermédiaire à l'âge mûr, et puis voilà l'icône. Voilà. Donc, ça n'est pas une conférence, disons, sur les idées politiques, bien sûr, il en parlera, de Karl Marx, mais surtout sur les circonstances de sa vie et l'usage qui a été fait de ses ouvrages. Alors là, c'est une de mes grandes fiertés, c'est j'ai réussi à débaucher Alain Kersaudy. Alors c'est un homme qui est assez connu et qui fait des chroniques sur Le Point, hein, et qui est le spécialiste de la biographie de Churchill. Et en plus, c'est un excellent conférencier puisqu'il a enseigné à Oxford. Il est parfaitement bilingue, il est plus que bilingue, il parle cette langue. Hein. Si vous voulez, il a un don de comédien extraordinaire et il sait imiter Churchill en anglais et en français. Si vous avez déjà écouté Churchill parler français, c'est du café-théâtre. C'est extraordinaire. Hein. Et donc, Churchill, c'est un homme à découvrir. Le voilà, comme il disait en français dans le texte, ma barboteuse. Voilà, donc on verra une partie très étroite de sa carrière, c'est-à-dire de 1911 à 1916, qui est relativement méconnue. Il était Lord de l'Amirauté, hein, donc ministre de la Marine en 1911, et après des péripéties qu'il vous racontera, il s'est embauché comme colonel dans l'armée anglaise, et il a fait la guerre de tranchées dans les tranchées du Nord. Et il est revenu vivant parce que chaque fois qu'il y avait une bombe qui tombait, il venait de se déplacer dans les 30 secondes qui précédaient. Voilà, c'est lui, il est mort quand même, je rappelle, à 91 ans en buvant une bouteille de whisky par jour. Hein? Ça conserve. Un autre mythe sur la guerre, alors ça c'est Robert Chantin qui nous l'a proposé, qui est de dire... c'est normal qu'on ait perdu, enfin qu'on ait failli perdre la guerre de 14, et c'est normal aussi qu'en 45 on ait été balayé par les Allemands. Il va essayer de nous convaincre qu'en 1914 on n'aurait jamais dû perdre les frontières, et on devait être battu absolument, et c'est les Allemands qui ont fait des bêtises. Et alors qu'en 45, on n'aurait jamais dû être battu alors qu'on l'a été. Voilà. Donc, c'est intéressant. Donc, on retrouve à nouveau les choses. Alors, donc là, Monsieur Farin termine son cycle sur l'Europe centrale. Évidemment, sur l'Europe centrale, ben, il y a les deux grands événements du XXe siècle, c'est Yalta et le deuxième événement, la chute du mur de Berlin. Au XIXe siècle, alors on va repartir du XVIIIe, là, XVIe, XVIIIe, c'est l'histoire de l'enseignement primaire. Hein. Donc, M. Vion-Delphin, qui vient de Montbéliard, qui est un excellent conférencier, nous parlera de l'histoire de l'enseignement primaire en France, jusqu'à la fin du XIXe, jusqu'en 1914, puisqu'après, bon... Alors, Amazon, ça fait déjà 2 ans que je le mets au programme, j'ai du mal à amorcer la pompe, tout simplement parce que j'ai fini par comprendre que les directeurs changeaient tous les 6 mois. Et donc, chaque fois qu'on en avait un qui avait dit, d'accord, je viens, il disparaît, il n'a plus le même numéro de téléphone, et il faut renouer le... Alors, pour le moment, j'en suis au 4e. Hein. Donc, je ne désespère pas d'avoir une conférence sur Amazon l'année prochaine. Donc, voilà. En histoire industrielle, voilà quelqu'un qui gagne également à être connu, c'est M. Solvay, qui est un Belge, qui était à l'origine d'une très grande multinationale de la chimie. Et il y a une usine en particulier à Tavaux, à côté de Dole, qui est une importante usine chimique qui était basé sur la soude, enfin le chlore et le sodium, si vous voulez, hein, la chimie de la soude. Alors là, on a une photo, c'est les congrès Solvay. Dans la grande époque de Solvay, il y a eu des congrès scientifiques qui ont été patronnés par la société Solvay, où là, vous avez, sur une photo comme ça, il y a 20 prix Nobel qui sont réunis dans la même salle et qui discutaient de la physique qui était en pleine ébullition à cette époque-là. Donc, il vous en parlera. Schneider Electric, une adaptation à la mondialisation. Alors, j'ai trouvé un gars qui s'appelle Philippe Torres, qui est historien d'histoire industrielle et qui vit de ce métier-là. Un historien qui vit de ses travaux d'historien. Ça existe. Et je l'ai trouvé. Hein. Et c'est pas les piges à l'UTB qui le fait vivre, hein, je vous rassure tout de suite. Et en particulier, donc, Schneider. Ben Schneider, c'est une société qui existe toujours. Donc, toute la partie métallurgique a disparu. Hein. Vous connaissez, on est bien placé à Chalon pour le savoir, hein, quand il y a eu la faillite de Creuse-Loire. Et donc, on nous brossera le tableau depuis le début de Schneider jusqu'à qu'est-ce que Schneider est aujourd'hui. C'est une société qui s'occupe d'électricité et d'électronique dans le monde entier. Je vous parlerai de l'histoire de l'informatique. Alors là, j'ai pas résisté à mettre les vedettes. Bill Gates, donc c'est le premier, c'est Microsoft. Donc Monsieur Bill Gates, voilà, c'est une photo récente. Il a 60 ans cette année, hein. Et voilà Bill Gates quand il avait 18 ans. Hein. Voilà un bon exemple. Il a pas de diplôme. Il a quitté l'université avant d'obtenir un quelconque diplôme. Ça ne l'a pas empêché d'être l'homme le plus riche du monde. Hein. Et le deuxième figure emblématique, c'est Steve Jobs, donc le créateur d'Apple. Hein. Donc, beau gosse aussi, hein, qui a eu beaucoup de succès féminin. Je vous en parlerai dans l'histoire de l'électronique. Donc, le voilà jeune, dans la trentaine, et voilà juste avant qu'il décède. Donc, vous savez qu'il est mort d'un cancer du pancréas il y a quelques années. Hein. Voilà. Alors, je vous ai fait l'année dernière l'histoire de l'électronique. Donc, l'électronique, c'est l'électronique en général. Et une sous-histoire, c'est l'histoire de l'informatique. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, l'informatique est incontournable. Mais il faut parler, entre autres, de ces deux guignols, là. Parce que s'il y a 5 milliards d'ordinateurs aujourd'hui sur c'est parce que ces deux gars-là ont existé. Sinon, il n'y en aurait que 100 000 et qui ne se causeraient pas entre eux. Et Internet n'existerait pas. Voilà. Mais on ne fait pas l'histoire, c'est comme ça. On a l'an dernier eu le Lama Sonam qui est venu de Toulon là, et on l'a surpris. Moi je m'attendais à ce qu'il vienne dans robe orange là, disons avec le crâne rasé et tout, et avec le bol de riz. Non, il est en costume cravate et cadre brillant et dynamique, enfin à la retraite bien sûr, il est très propre sur lui, et il nous a dit: ah ben moi j'étais développeur informatique à la commission de Bruxelles. Ben, vous voyez, ça mène à tout. Il s'est détaché des biens matériels de ce monde et il nous fait des conférences sur le bouddhisme. Alors, il nous a fait la philosophie du bouddhisme l'an dernier et je lui ai demandé qu'il nous fasse l'histoire du bouddhisme puisque, comme toutes les religions, même si on peut dire que c'est plus ou moins une religion, cette philosophie s'est dissociée en de nombreux courants au cours de l'histoire. Et qui sont. On a déjà du mal à comprendre les nôtres, donc c'est encore plus difficile de les comprendre dans les religions asiatiques. Et donc, sur la thématique des religions, on vous propose, avec M. Vion-Delphin, donc l'histoire de la déchristianisation en Europe, en France et en Europe, qui est en fait. Alors, ça a commencé en France, ça, il n'y a pas de doute, mais qui est très compliqué et qui est passé par des hauts et des bas, c'est-à-dire ça, on le sait peu. On croit que la déchristianisation était un phénomène continu. Et en fait, c'est faux. Il y a eu des regains de religiosité, en particulier à la fin du XIXe siècle, sur la religion catholique. Et il y a eu des cycles également dans les religions protestantes qui étaient décalés dans le temps par rapport au phénomène qui se passait dans la religion catholique. Il vous expliquera tout ça. Et pour terminer sur les religions, eh bien, on a embauché un moine de l'abbaye de Cîteaux, qui va nous raconter l'histoire de Cîteaux, évidemment. Et bien sûr, on ira à Cîteaux, on achètera du fromage. Je vous confirme qu'ils sont très bons, je les adore. Hein, voilà. Alors, Monsieur Guichard, notre archéologue de service, le directeur de Bibracte, va nous parler du fer en Afrique. On sait peu qu'il y a eu de très brillantes civilisations, en particulier en Afrique de l'Ouest, disons dans ce qui correspond à notre Moyen-Âge, et qui a fait des développements technologiques tout à fait significatifs. Et pour revenir dans l'Antiquité, M. Lapérotte, qui nous a fait des conférences sur les écritures anciennes, eh bien, il va nous faire une conférence sur les supports des écritures, évidemment. Je vous ai mis une tablette cunéiforme. Ah, voilà, alors celle-là, à ne pas rater, on a décroché également la timbale, M. Jean Clotte, c'est lui qui a fait l'étude de la il l'a pas découverte, mais qui a fait l'étude il a 82 ans, il ressemble à ça, hein, comme la photo, il a 82 ans, et quand on l'a demandé, ben, il habite à Pau, hein. Donc, mais comme c'est une vedette et c'est un excellent conférencier, il a accepté, il nous fera deux conférences deux jours de suite, c'est tout à fait au début de la saison, début octobre. Stéphane Le Couédic nous parlera du théâtre au 19e, sous toutes ses facettes, qui sont extrêmement nombreuses. Alors là, je fais un quiz, alors c'est qui celui-là? Musset, gagné. Celui-là? Ah! Le moustachu, là. Eugène Labiche. Ça, c'est quoi? Ubu, Alfred Jarry. Et ça, c'est le grand guignol. Bon, il n'y a pas d'auteur, ça vaut pas le coup. Ça a eu beaucoup de succès. C'est ce théâtre sanguinolent, ça avait beaucoup de succès à la fin du 19e. Il faut en parler. Alors, on va se payer la tête de notre Victor national, hein, Totor, comme l'appelle Stéphane Le Couédic, et donc essayer de voir des aspects un petit peu méconnus du personnage. Et vous savez qu'il était photographe et dessinateur, et aujourd'hui, il serait presque plus à sa place dans les histoires de l'art que dans l'histoire de la littérature. Et puis, il avait des amours, mais c'était un peu à la mode, pour le spiritisme. Voilà. Ensuite, la presse satirique sous la Ve République. Donc là, je vous ai mis Charles, disons, vous reconnaissez des caricatures qui étaient dans le Canard enchaîné. Hein. Et voilà le monde moderne. Alors, j'ai trouvé des images assez sympathiques. Hein. Voilà, ras-le-bol de la pub. Hein. Et pas mal, hein, celle-là. Hein. Donc, influence des nouvelles technologies sur l'industrie de la publicité. Donc, il y a une personne, celle qui va faire la conférence demain sur les jeunes en difficulté pour la lecture, qui s'occupe d'une association qui est dédiée à cette activité. En fait, il était chez Publicis. Et il va nous faire une conférence sur la publicité l'année prochaine. Et puis, le big data, alors tout le monde en parle, alors big data en anglais, ça veut dire beaucoup des grosses données, des gros ensembles de données, hein. Donc là, vous voyez, tout ce dont on vous parle en disant vous êtes fliqué, ben, c'est dans des serveurs informatiques qui ressemblent à ça, c'est pas très fun. Et il y a des milliards et des milliards d'informations qui gravitent là-dedans. Donc, alors ça, c'est très difficile parce qu'il y a un aspect technique qui est quand même complexe et on ne peut pas rentrer dans ce type de détails dans une conférence, et un aspect sociologique et éthique. Et donc, on a trouvé Michel Bonnet à accepter d'essayer de faire la synthèse des différents aspects de la technique et des aspects sociologiques et éthiques. Les économistes sont-ils nuls? Ça, c'est une question qu'on se pose beaucoup, puisque chaque fois qu'il y a des prévisions, évidemment, l'année suivante, on confirme que les prévisions étaient mauvaises. Et ils ont un art consommé pour nous expliquer la raison pour laquelle elles étaient mauvaises. Donc, voilà. Alors, monsieur, notre sociologue de service, monsieur Monique, est un excellent conférencier, le directeur de l'IIT. Donc, on s'est mis d'accord avec lui pour faire la psychologie des groupes. Et donc, j'ai mis à la couverture d'un livre célébrissime du début du XXe siècle de Gustave Le Bon sur la psychologie des foules. Les philosophes. Alors, on va enfin sortir du XVIIe, hein, sur la pointe des pieds, et on va parler de Newton et de Leibniz sous leur aspect philosophique. Il va essayer de les opposer, même si, bon. Et puis, M. Pierre Guénantia va nous faire plutôt la philosophie politique de Leibniz. Arlette Mougin nous parlera de Michel Foucault, et on a trouvé un conférencier qui va nous parler d'Alain, Alain, que j'aime bien personnellement, philosophe du début du XXe siècle. Alors, on revient sur le big data, j'ai trouvé une image rigolote, hein, en disant « tout le monde vous surveille, voilà, et qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ?» Alors, donc ça, c'est l'aspect juridique, droit à la vie privée et Internet. Alors ça tombe à pic, puisque vous savez que ce sont des sujets qui sont en cours de discussion à l'Assemblée nationale, mais c'est en discussion dans tous les pays européens, et c'est pas facile à faire, puisque l'ingéniosité des pirates va, comme elle va 10 fois plus vite que l'ingéniosité des juristes pour essayer de les empêcher de faire du piratage, la partie est perdue d'avance. Les conférences de géopolitique, monsieur Lionel Véran, il a dit, ah, il faut que je vous parle de la Chine parce qu'en 3 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Donc là, il faut vraiment réviser très souvent, hein, donc il nous parlera de la Chine. Et s'est arrêté tout à l'heure sur la chute du mur de Berlin. Eh bien, on continuera avec Bruno Benoît sur la chute de l'URSS et la Russie de Poutine. Monsieur Lyonnais, donc, qui, je rappelle, est le président de l'UTB de Beaune, va nous continuer son cycle sur les grandes mégapoles américaines, nord-américaines. L'endettement de l'État. Ça aussi, voilà. Alors, ça, tout le monde en parle, mais on ne sait pas trop de quoi il s'agit. Hein. Donc, Madame Ruiz, donc, je rappelle qu'elle était professeure d'économie à Pontus, qui est à la retraite maintenant, qui viendra, elle est très claire, très pédagogue, elle viendra nous faire un exposé factuel sur l'histoire de ça. Bon, la courbe, vous la connaissez tous, et les conséquences qu'elle a sur notre vie quotidienne. Alors, on revient à l'Égypte. C'est bien de parler de l'expédition d'Égypte, des pyramides, etc., etc., mais en Égypte, il se passe des choses aussi, hein. Et donc, on a demandé à M. Michaud, qui nous a fait l'an dernier les Soudans, de nous parler de tous les événements qui se sont passés récemment en Égypte. Et je pense qu'il va repartir au moins de Nasser pour bien comprendre toute la spécificité de l'histoire de ce pays. L'Afrique noire face aux défis alimentaires, ça c'est inusable, mais c'est un point d'actualité, si vous voulez, par rapport à cette problématique qu'on a déjà évoquée plusieurs fois, mais basée sur des études les plus récentes. Alors, je fais de la publicité à nouveau pour ce monsieur Alain Koldefy. Alors, c'est pas marqué sur la planche, mais ça s'appelle l'amiral Alain Koldefy. C'était le numéro 2 de l'état-major français. Maintenant, il est à la retraite, il est consultant auprès de EADS. Et donc, c'est un marin, donc il nous a fait des choses sur l'aéronautique. Là, on va parler des fusées maintenant. Et il a dit, moi, ça m'embête un peu, moi, je veux vous parler des bateaux, parce que je suis marin. Donc, on a trouvé une combine pour qu'il vienne parler de la marine. Donc, il a été patron, par exemple, du Foch, Pacha, comme on dit, du Foch. Donc là, c'est Paul Foch, c'est Charles de Gaulle, hein. Et donc, lui, évidemment, il pense qu'une nation sans bateau, de guerre, hein, évidemment, c'est pas une nation. Mais il vous expliquera tout ça. Alors, quand il est venu, c'était un vendredi soir où il faisait un temps épouvantable, et dans le petit amphi de l'IUT, il y avait 40 personnes. Bon, ok, sympa, je vous assure que ça vaut le déplacement. Hein. Il est vraiment très bon, il est comme Véran, si vous voulez, comme qualité. Hein. Et on n'est pas numéro 2 de l'armée si on n'est pas bon. Hein. Voilà. Alors, un thème qu'on avait envie de traiter depuis très très longtemps, mais on ne trouvait pas la personne idoine, et donc Annie Vario l'a trouvé. Donc, la géopolitique des mondes polaires. Vous savez qu'avec le réchauffement climatique, il y a un grand fantasme qui s'installe en disant les glaces vont fondre. Alors, tout le monde s'affole par l'élévation du niveau de la mer, mais il y en a qui ne s'affolent pas, c'est les gens qui font du commerce maritime. En disant, si la route du pôle est ouverte, eh bien, on va pouvoir raccourcir la distance entre l'Asie et l'Europe. D'une part, et deuxièmement, il y a des fantasmes également sur les ressources minières et pétrolières et gazières de la calotte. Alors, je rappelle qu'aujourd'hui, il y a un traité international qui interdit l'exploitation minière des pôles, enfin du pôle, des pôles. Hein. Et il y a de grands débats là-dessus, et donc il y a un centre polaire à Prémanon dans le Jura. On se demande ce que le centre polaire vient faire à Prémanon, mais enfin bon, il a l'avantage d'être près de chez nous, donc il viendra. Et le grand chef de ça, c'est le fils de Paul-Émile Victor, c'est Christophe Victor que vous voyez à la télé. Je fais toujours de la pub pour cette émission, le dessous des cartes sur Arte, hein, le samedi soir, entre 7h30 à 8h moins le quart, c'est de loin, de mon point de vue, la meilleure émission de télé qui existe dans le paysage français aujourd'hui. C'est du Véran plus, hein, et en 12 minutes, ça dure 12 minutes. Donc écoutez, la médecine, thérapie génique, François Salvatori, vous prendrez un petit coup pour vous booster avant la conférence, parce que là, c'est chaud, hein, il faut suivre. Hein. Et ensuite, donc, le docteur Dellinger, qui était venu l'année dernière, il a plus le temps de faire des conférences, donc il renvoie le docteur Philippe et un autre docteur qui travaille avec lui, docteur Fayard, qui vont nous parler des valvulopathies. Donc là, on avait parlé des artères coronaires, donc c'est une autre partie de la cardiologie. Et le docteur Massard, qui est chirurgien à Sainte-Marie, viendra nous parler de la robotique. On en a déjà parlé avec le professeur Paparel, là, mais qui était vraiment orienté côté rein, si vous voulez. Donc on saura exactement ce qui est utilisé dans les équipes sur Chalon, si vous voulez. Le professeur Maxim Schwartz, alors ça aussi, il n'y avait pas beaucoup de monde, c'était à l'IUT. Alors celui-là, il était ancien directeur de l'Institut Pasteur. Ça, c'est en plus un excellent conférencier, un don de la pédagogie extraordinaire. Donc on va parler de Pasteur et Koch, dit par les Français, et Koch, dit par les Allemands. Voilà. Donc ils sont totalement contemporains, et vous savez, c'est lui qui a découvert le bacille de la tuberculose. Et Pasteur, la rage et tout, vous savez, il nous avait déjà fait une conférence là-dessus. Et on va dire, il y a eu une certaine compétition scientifique, mais également nationaliste entre eux, puisque avant ils se causaient, mais après la guerre de 70, c'était vraiment la guerre des scientifiques, dans un sens comme dans l'autre. Mais ça n'a pas eu que des aspects négatifs. Cette compétition entre les équipes des deux hommes a eu des effets positifs. Et il vous expliquera tout ça. L'astronomie, donc M. Bonin, donc on va revenir un peu plus dans les étoiles, là maintenant, on va parler de Rosetta, on en a beaucoup parlé. Là, on saura si la sonde s'est réveillée ou pas, ce que ce sera passé. Couleur, température et âge des étoiles, pour les spécialistes, vous reconnaissez tous le diagramme de Hertzsprung-Russell. Et puis là, les phénomènes optiques atmosphériques, évidemment, j'ai mis l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, on a mis, vous savez tous que c'est Newton qui a compris le premier et expliqué le phénomène de l'arc-en-ciel. Monsieur Jacques Foss, qui nous a parlé beaucoup de radioactivité, puisque c'était le dernier titulaire de la chaire de Marie Curie, et donc il vient nous parler de la transition énergétique, ça, sujet tarte à la crème de tous les magazines, et qui est souvent maltraité au sens en un seul mot, si vous voulez. Et Monsieur Jean-Marie Vigoureux va nous parler de Kepler. Donc, je rappelle Kepler qui a trouvé les lois qui régissent les orbites des planètes, enfin des corps célestes. Et il va surtout nous parler de sa vie et les méandres par lesquels il est passé pour en arriver à ses conclusions, dont s'est servi Newton pour proposer sa théorie de la gravitation. Madame Simon Plat, qui est venue, qui est la directrice de l'INRA à Dijon, va nous parler des mécanismes d'autodéfense des plantes. Et on parlera de l'alimentation du point de vue historique. On a trouvé un physicien du CERN qui va nous parler de l'histoire du CERN et on visitera le CERN à Genève. On nous parlera des lasers dans le cadre de la semaine de la science. Le professeur Loubet, qui nous a parlé de l'histoire de la bagnole, c'était passionnant, et il s'est arrêté à la Deutsche en 1939. Donc on fera la suite jusqu'à la période contemporaine. Alors c'est pas trop technique, c'est historique, et quels sont les ressorts, j'allais presque dire, sociologiques ou ethnologiques, et aussi bien en France qu'en Allemagne, qui ont fait que les automobiles ont des particularités qui sont nationales. On vous parlera du gaz, parce que le gaz, on est bien content de l'avoir quand on ouvre le robinet de la gazinière, on ne sait pas ce qui se passe derrière, tout le monde s'en fiche d'ailleurs, en espérant par contre que quand on l'ouvre, il y ait quelque chose qui soit au bout. Et on verra que c'est très compliqué, contrairement à l'idée qu'on s'en fait. Donc, on aura des spécialistes qui nous parleront de ça. Également, un institut méconnu qu'on a souhaité remettre en lumière, le BRGM, Bureau de Recherche Géologique et Minière. Et donc, c'est un ancien de cette institution qui va nous parler de ça. Voilà. Histoire du cinéma. Je vous laisse lire, vous voyez, donc Paul Genet qui va nous faire cinéma, McCarthyisme et John Ford. La musique, histoire du piano jusqu'au 19e siècle. Hector Berlioz par Madame Farinck, excellente conférencière de musicologie. Monsieur Varnet nous fait le mythe de Faust et une découverte autour d'un équateur. Et le théâtre. Histoire du théâtre, le théâtre allemand au 19e et au 20e. Je m'aperçois en repassant mes planches que j'ai oublié une conférence dans mes planches et je reviens à l'histoire de l'art, on aura une histoire du parfum. Sujet, alors donc ça, j'ai zappé en constituant mes planches, on aura l'histoire du parfum. Voilà. Alors. Je passe en vitesse, oui, j'ai pas trop de retard. Donc, je passe en vitesse, donc nos différents ateliers, vous les lisez, je ne vais pas tout vous les relire avec les responsables, donc je rappelle que ce sera le 22 septembre, on aura une présentation spécifique sur ces ateliers. Voilà les groupes de travail, et ça se termine par la marche et les voyages culturels. Alors, je passe très vite, vous lisez, Alors, pour participer à ces ateliers, il y a des ateliers payants, des ateliers gratuits. Les ateliers qui sont payants sont ceux qui font intervenir un professeur, donc il faut rémunérer. Donc voilà un des cas, c'est l'histoire de l'art. Donc c'est passionnant, histoire de l'art. Monsieur Mathieu Pinette, art plastique, on fait du dessin. atelier Wikipédia, je vous en parlerai le 22 septembre. Groupe dicté, c'est Liliane qui s'en occupe, gros succès. Atelier d'écriture, ça a bien marché cette année. Groupe économie et géopolitique, c'est analyse d'articles et d'ouvrages sur cette thématique. Éthique et société, donc cette année, on parlera de justement du big data, donc le modernisme, comment on peut contrôler ou subir ou pas trop les évolutions de la technique. L'œnologie, ça se passe à Givry. Café-débat qu'on fait en fonction des circonstances. Il y en a eu un donc le dernier lundi. Les lundis de l'UTB, la marche et les voyages. Donc voilà, café-débat, je passe. Les lundis de l'UTB. Les lundis de l'UTB, ce sont des conférences qui sont faites par les adhérents. Hein. La marche, ben, c'est la marche. Donc c'est préparé. Si vous voulez, au lieu d'avoir qu'un lieu de rendez-vous, ce sont des marches qui sont faites avec des reconnaissances, et il y a un circuit qui est proposé, qui est envoyé à tous les participants avant que la marche se fasse. Donc ça demande une certaine préparation. Voyages et sorties culturelles. Alors en principe, ces voyages ont un rapport plus ou moins étroit avec des conférences qui sont données dans l'année ou qui ont été données l'année précédente. Pour illustrer, si vous voulez, par exemple, l'année dernière, on a vu des conférences sur la Pologne, on est allé en Pologne. Hein, voilà un exemple spécifique. Bon, et on peut faire tous les groupes que vous voulez, il n'y a que la place et le temps qui nous limitent. Donc, je rappelle une fois de plus, et ça c'est souvent méconnu, mais je le rappellerai toujours, même si ça peut paraître un peu du radotage, nous sommes une association et non pas une société des spectacles culturels. Hein. Donc les gens qui animent cette association, ce sont des bénévoles, purs et durs, qui se donnent à fond, vous le savez très bien, et... Donc, on demande au maximum qu'il y ait un retour. On en a, hein, si vous voulez. On voudrait telle conférence, il y a ça qui marche pas, etc. On les critique, c'est facile à faire, mais si elles sont constructives, on les accepte toujours. Et si on veut faire des nouvelles propositions, bon, on les attend. Souvent, je dirais, on est plutôt frustré du manque de réactivité, mais enfin, ça, c'est un problème spécifique. Qui est classique dans les associations. Donc, je fais à nouveau un appel au peuple pour dire, bien, dites-nous ce que vous voulez, dites-nous ce que vous voulez améliorer, dites-nous tout ce que vous voulez nous dire, et puis on essaiera de s'adapter aux souhaits des uns et des autres. Alors, donc on travaille avec tout le monde, je le redis tous les ans, il faut le redire, on travaille avec tous les services de la ville et du Grand Chalon. Et donc, nous, on n'a pas de préférence avec Pierre, Paul ou Jacques. Tous les projets qu'on peut faire avec les uns, avec les autres, bien sûr, disons, sur un pied d'égalité, eh bien, on les fait. Hein. Donc, eh ben, j'ai cité quelques cas. Par exemple, la bibliothèque, tous les ans, ou presque tous les ans, on fait une animation en collaboration avec eux. Mais enfin, il faut reconnaître que c'est un peu nous qui allons toquer la porte, et chaque fois qu'on demande, ils disent d'accord, mais bon, ils se bougent pas beaucoup pour faire court. Hein. Vous le mettez pas dans l'article, hein, ça. Bien, alors, je vais faire un petit zoom sur le site internet. Alors, le site internet, pour ceux qui vont dessus, voilà son look, hein, et on va faire des travaux pratiques après, on va essayer. Hein. Alors, sur ce site internet, eh bien, il y a tout ce qui se passe à l'UTB. Donc, voilà la page d'accueil, voilà le look de la page des conférences. Donc, ces couleurs correspondent à des thématiques, ça permet de les repérer un petit peu plus facilement. Ensuite, vous avez une fiche par conférence, vous avez le lieu où se passe la conférence, vous avez les téléchargements des documents, etc. Je vous ai mis quelques exemples ici. Et voilà, quand ça marche, la façon dont ça se passe. C'est-à-dire, ce site, vous pouvez le voir soit sur vos téléphones, si vous avez des téléphones récents, qui s'appellent les smartphones, soit sur des tablettes, si vous avez des tablettes. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous le lisez sur le bulletin, papier. Hein, voilà. On a toutes les formules du bulletin papier jusqu'au bulletin. Alors, en dehors de l'intérêt de la chose, c'est que, je reviens en arrière, sur ce site, il y a des petites explications ici, et quand il y a des annulations ou des modifications ou des annonces particulières, on essaye de les mettre vraiment en évidence sur la première page. Et donc, un réflexe qu'il faut tenter de prendre, c'est quand vous venez, surtout si vous venez d'un petit peu loin, si vous habitez à 10 ou 15 kilomètres, avant de venir vous partez à 1 heure ou à 1 heure et demie, vous faites un petit coup d'œil rapide sur le site internet et vous dites ben non, il n'y a rien d'anormal et tout et tout. Quand vraiment il y a une annulation de dernière minute, on essaye de faire un mailing général à ceux qui ont des mails, encore faut-il que les gens le lisent. Donc, ce qui est plus pratique, c'est qu'on poste tout de suite là-dessus. Il n'y a rien de plus désagréable, surtout l'hiver, quand on a fait ces 15 kilomètres, on se pointe et il y a une petite affichette sur le tableau en disant le conférencier a annulé sa conférence pour diverses raisons. Donc, on peut pas, la seule façon de prévenir tout le monde, c'est d'aller sur cette chose-là. Voilà. Alors, voilà pour le journal. C'est là qu'il faut prendre des notes, hein, Monsieur Juillot. Voilà, nombre de conférenciers total, et vous avez ça, voilà. Voilà. Alors, on va faire des travaux pratiques. On va essayer de faire des travaux pratiques. Là, il est moins 20, donc vous me donnez au moins 5 à 10 minutes. On va voir si ça marche. Hein. Alors, non, c'est pas celui-là. Voilà. Alors, est-ce que ça fonctionne? Voilà, ça fonctionne. Alors, à l'accueil. Ça marche, oui? Alors, vous voyez, par exemple, j'ai fait de la pub pour la séance d'aujourd'hui. Hein. Donc, venez nombreux à la présentation des conférences de l'année 2015-2016. Je clique là-dessus, hein, et je vois... Ce qui se passe effectivement aujourd'hui, c'est que je suis en train de vous parler du programme de l'année prochaine. Et puis, je vous dis ce que je vais vous dire. Et venez nombreux, vous êtes venus nombreux. Merci. Voilà. OK? Alors, ensuite, une fois que vous avez lu les généralités ici, on vous met les 6 prochaines conférences qui vont venir. Hein. Donc, ça vous évite d'aller patouiller dans l'ensemble du site. Donc, vous voyez que demain, on aura une conférence sur ce thème-là. Donc, vous savez qu'est-ce que c'est que ça? Vous cliquez dessus et vous avez la description de cette conférence. Voilà, un petit résumé. Ensuite, alors, vous voulez faire des choses... Comment? Oui, attendez, d'accord, ok. Alors, je vais en prendre une exprès, là, voilà. Histoire de la Légion d'honneur, voilà. Alors, on regarde, on ne sait pas où ça se passe. Alors, comme on ne sait pas, on fait lieu, salle Marcel Samba, et, ah, c'est miraculeux, la salle Marcel Samba, elle est là. Hein. Donc, je ne vous ferai pas l'injure de dire, vous ne savez pas où c'est, mais quelquefois, on va dans des salles un petit peu exotiques, et surtout pour des gens qui sont de l'extérieur de Chalon, ça permet de repérer rapidement où ça se trouve. Hein. Et si je zoome, voilà, il n'y a pas de doute, c'est bien la salle Marcel Samba. OK? Et ensuite, alors je reviens en arrière. Alors, quand je clique sur conférence, j'ai toutes les conférences de l'année. Alors, ça en fait beaucoup. Ah, zut, je sais pas, je voudrais les conférences de Madame Roux. J'adore Madame Roux, je voudrais voir qu'est-ce qu'elle nous a raconté. Alors, comme ça me casse les pieds de chercher comme ça, je fais recherche. Et puis, je vais à conférencier et je cherche Madame Roux. OK? Ah, Madame Roux, elle est là, je fais rechercher. Et voilà ce que Madame Roux nous a fait ces dernières années. Ah, ben oui. Alors, je veux Histoire des Caraïbes, numéro 2, Haïti dans l'œil des cyclones. Ah, voilà. Ah, ben voilà. Donc, voilà son résumé de la conférence. Madame Roux, je ne me souviens plus qui c'est, bien qui c'est. Alors, Madame Roux, c'est... Ah, ben Madame Roux, elle est là, voilà. C'est ça. On a sa photo et on a son pédigré. Ensuite, Maison des syndicats, on y est. Donc, document. Document. Ben, il n'y en a pas, là. Je ne sais pas pourquoi. Audio. Ah oui. Oui. Si, il y en a. Alors, je vais me connecter, puisque je suis un membre, et je me connecte. Voilà. Donc, maintenant, je fais conférence. Je recommence, recherche. Vous voyez, bonjour Yves Fournier. Hein. Je veux voir Madame Roux. Je recherche. Histoire des Caraïbes. Les documents. Présentation. Elle se charge. Un peu de patience. Voilà. Et voilà les transparents de Madame Roux. OK ? Ensuite, idem pour la leçon. Et voilà, j'ai un lecteur audio.
C'est à la fois une escale stratégique entre le nord et le sud, et puis c'est un point essentiel pour le commerce transatlantique.
Donc vous entendez la conférence.
Donc, voilà à peu près.
Pourquoi on a fait ça ? C'est pas simplement pour s'embêter à monter tout un matériel qui est très compliqué. Hein ? C'est tout simplement, vous n'avez pas pu assister à la conférence et vous voulez la réécouter chez vous. Et donc vous avez en même temps les planches et le son. Et vous tournez les pages en même temps que le son défile. OK. Alors, ça, évidemment, c'est réservé à une élite qui paye 20 euros de plus par mois. Par an. Hein. Voilà, il faut payer une cotisation complémentaire pour payer le service. Vous avez la liste des conférenciers avec le trombinoscope, etc., etc. Et ensuite, là-dessus, eh bien, vous avez groupes et ateliers. Tout ce qui se passe dans les différents groupes sont indiqués ici. Vous allez dans... éthique et société, vous voyez, voilà ce qui se passe. Voilà les éthique et santé, compte rendu des réunions, documents, compte rendu, voilà. Etc., etc. Et ensuite, vous pouvez aller sur les voyages. Et les voyages, ben voilà ce que vous avez à faire. Donc, par exemple, alors je vais faire de la pub là. Voilà. Balade musicale avec le groupe Laostic. Il reste des places. Hein. Donc, c'est le 13 juin. Hein. Donc, voilà, comme on avait fait il y a 2 ans dans les églises de Saône-et-Loire, hein, à Chapez et à... Voilà, et donc il y a tout le programme, et voilà, et le tarif. Donc, inscrivez-vous. Si il y a un chapitre sur les ouvrages qu'on a publiés, etc., vous pouvez nous envoyer des mails, comme sur tous les sites internet bien faits, c'est le cas du nôtre, et puis si je reviens à l'accueil, vous avez donc des événements extérieurs, de la pub, par exemple, ben voilà, on vous parle du programme autour de la Légion d'honneur. Et voilà. Et tous les mois, eh bien, vous pouvez télécharger le bulletin papier, ici. Voilà le bulletin qu'on édite, et vous pouvez l'imprimer sur votre imprimante. Il ne suffit pas de l'imprimer, il ne faut pas imprimer que le tableau ici, hein, comme beaucoup de gens font. Il faut imprimer, il faut lire tout jusqu'au bout. Hein. Puisqu'on nous dit toujours, ah ben c'est bizarre, je ne l'avais pas vu. Ben, pourtant, c'était dans le bulletin. Voilà. C'est dans le bulletin, c'est sur le site. Alors maintenant, je vais faire un essai audacieux. Je ne sais pas si ça va marcher, j'espère. Voilà. Et donc, je zappe. Voilà, la même chose sur votre téléphone magique. Et vous défilez ici, et vous retrouvez... Et voilà. OK ? C'est exactement le même fonctionnement. Le son marche, les images marchent. Donc, j'ai pas d'action chez les vendeurs de téléphones mobiles, hein, mais si vous voulez, ça vous permet, si vous êtes à l'extérieur, de jeter un petit coup d'œil juste avant de venir pour savoir si la conférence est annulée ou déplacée. Y a-t-il des questions? Vous pouvez rallumer, s'il vous plaît. Oui? Les inscriptions. Alors, pour les anciens adhérents, c'est à partir du 2 juin, avec un tarif préférentiel de fidélité. Et pour les nouveaux adhérents, c'est à partir de début septembre. Voilà. Et cette année, une grande nouvelle que je peux vous annoncer, nous ne changeons pas le tarif de la cotisation. La raison, elle est simple, c'est que nous, on a fait une bonne année cette année. Donc, on peut souffler un petit peu sur la courbe d'augmentation des tarifs. Voilà. Donc, pour la première année, puisque je suis monsieur augmentation, hein, donc cette année, on n'augmente pas. Voilà. Et on verra... Oui, oui. Attends, viens ici, je t'entends pas. Prends le micro.
Oui, je voulais signaler que j'habite à Buxy, donc on a un débit qui est assez bas et je ne peux pas me connecter, donc c'est pas possible. Donc, faire attention avant de prendre les 20 euros supplémentaires, que vous ayez bien le débit suffisant pour pouvoir regarder les conférences. Vous pouvez faire des tests déjà dès chez vous.
Là, j'ai Internet en utilisant finalement mon téléphone portable ici.
Oui, donc, mais parce que là, j'ai le réseau.
Voilà, voilà.
Combien de mégas ici?
Ben là, je dois avoir 2 ou 3 mégas.
Pas plus.
Non.
Ah oui. Ben, faut faire un essai quand même avant
faire
de payer.
Un essai.
Je voilà.
Actuellement, il y a à peu près il y a 120, 130 personnes, 150, c'est dans ces eaux-là, qui ont pris les abonnements supplémentaires, si vous voulez. Mais ça a vocation à augmenter, puisque, si vous voulez, il y a des personnes qui habitent très loin de Chalon, qui sont intéressées par notre programmation, mais qui ne peuvent pas venir. Donc, on pourrait faire une formule, on étudie une formule, mais pour ça... Il faut faire des adaptations dans notre site Internet. On étudie une formule qui permettrait, alors qui serait moins chère que l'adhésion physique, si vous voulez, mais qui permettrait à des personnes qui habitent à plus de 30 km de Chalon de suivre les conférences en audio et avec les planches, si vous voulez. Hein? Voilà, y a-t-il d'autres questions? Eh bien, contrairement à mon habitude, j'ai tenu le planning. Et donc, je vous remercie de votre présence.